Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Code Source est en vacances jusqu'au lundi 29 août. En attendant, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter une sélection d'épisodes choisis par l'équipe du podcast. Aujourd'hui, le grêlé. Le mystérieux tueur était gendarme, l'épisode d'un cold case de 35 ans, podcast d'octobre 2021 en deux épisodes que nous avons réunis. Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. L'affaire du grêlé est résolue. Cette affaire non élucidée hantait les enquêteurs de la police judiciaire depuis plus de 30 ans. Soupçonné d'au moins 3 meurtres et 6 viols, le grêlé était recherché depuis les années 80. On sait formellement aujourd'hui qu'il s'agissait d'un homme au-dessus de tout soupçon, un retraité de la gendarmerie, un papy-poule, considéré comme un chic type par ses voisins. Code Source raconte l'affaire du grêlé en deux épisodes, le premier aujourd'hui, avec deux journalistes du Parisien, Damien Delceni, chef du service police-justice, et Denis Courtine, du service Enquête Île-de-France. Le jeudi 30 septembre, l'actualité est marquée par la condamnation de Nicolas Sarkozy à de la prison ferme dans le cadre de l'affaire Big Malion. Mais vous, Denis Courtine, ce jour-là, il y a une autre affaire qui vous occupe. Vous avez eu un tuyau sur un dossier important.
Ouais, on vient d'apprendre que la veille au soir, un homme retraité s'est donné la mort dans un appartement au Gros-du-Roi, un appartement qu'il venait de louer. Et il a laissé un courrier adressé à sa femme dans lequel il avoue qu'il a commis des choses abominables dans sa jeunesse.
Et il devait être entendu par les enquêteurs dans le cadre de l'affaire dite du grêlé. Damien Delceni, pourquoi cette affaire a beaucoup marqué les enquêteurs ?
Parce qu'elle n'est pas résolue, parce que ça fait plus de 35 ans que le grêlé, c'est un portrait robot en noir et blanc qui est resté toujours dans les couloirs de la PJ, de la crime à Paris. Et c'est un dossier qui hante en fait la PJ depuis 35 ans. Et on a tous vu au moins une fois le portrait robot de cet homme. Et puis c'est des faits qui sont extrêmement glaçants aussi. Voilà, c'est pour ça que c'est une affaire qui a beaucoup marqué, et la police, et plus encore.
Denis Courtine, à ce stade, j'imagine que vous restez prudent ?
Évidemment, on reste prudent. Il y a un courrier où il y a des aveux qui sont faits, mais dans l'attente d'un résultat ADN, on ne peut pas certifier qu'il s'agit bien du grêlé.
Parce qu'il a dit quoi, en quelques mots, dans ce courrier ?
C'est un courrier qu'il adresse à sa femme, dans lequel il explique qu'il a commis des actes irréparables à l'époque de sa jeunesse. Sa femme aurait d'ailleurs suspecté, c'est ce qu'il dit, enfin du moins tu t'étais douté de quelque chose, et en tout cas il explique qu'il a tué des gens innocents.
François Vérove habitait à la Grande Motte dans l'Hérault, il a longtemps vécu à Prades-le-Lez dans le même département. Pour tous ses voisins, qui ne savent pas à ce moment-là qu'il est mort, qui est-il, François Vérove ?
François Vérove, pour tous ses voisins, pour tous ceux qui habitent près de Lelay, c'est un type formidable, un type très sympa, un type qui a été conseiller municipal, qui s'est impliqué dans la vie de la commune et qui est quelqu'un qui rend des services et qui représente une certaine, quasiment une forme de notable dans cette ville.
Il a 59 ans, il est marié, il a deux filles, il est même grand-père.
Alors ses enfants ne vivent plus évidemment avec lui. Lui, par contre, il est toujours avec sa femme qu'il a rencontrée il y a très longtemps dans le nord de la France. Et effectivement, il a deux gamines et des petits-enfants qui promènent. D'ailleurs, on le voit sur une de ses photos, on le voit promener ses petits-enfants avec son vélo.
Il a des passions ?
La seule passion connue, du moins pour l'instant, c'est la moto. De son adolescence, où il faisait la motocross dans le quartier, ensuite son intégration à la garde républicaine, il a quasiment toujours fait de la moto, jusqu'à son accident à la fin de sa carrière, où il s'est mis à boiter. Enfin, il y a eu des complications d'après un voisin de Prades-le-Lay à l'hôpital. Il ne pouvait plus faire de la moto.
Denis Courtine, ce jour-là, peu avant 13h, vous êtes le premier à publier un papier sur le sujet sur leparisien.fr. Vous racontez le suicide d'un homme potentiellement suspect dans l'affaire du Grêlé. Mais avec des précautions, le nom de famille, par exemple, n'est pas donné. En tout cas, l'information est très largement reprise ensuite.
Peut-être la fin de 35 ans de mystère. Un ancien gendarme de 59 ans s'est donné la mort près de Montpellier au Gros-du-Roi. Il a laissé une lettre dans laquelle il s'accuse de 6 viols et 4 meurtres à Paris au début des années 80. Le seul portrait robot qui avait...
Damien Delceni, pour bien comprendre l'importance de cette information, il faut reprendre l'histoire du début. En 1986, le lundi 5 mai, le corps d'une fillette est retrouvé dans le sous-sol de son immeuble à Paris, dans le 19e arrondissement.
La rue Petit, dans le 19e arrondissement. Des grands ensembles modernes où logent 850 personnes. Cécile habitait au 3e étage du 116 avec ses parents.
En fait, Cécile Bloch, c'est une enfant de 11 ans qui est assez autonome et qui, quand elle rentre du collège le midi, a l'habitude de manger toute seule chez elle. Mais à chaque fois, sa maman lui passe un coup de fil pour vérifier qu'elle est bien là. Et ce jour-là, quand sa maman l'appelle pendant la pause déjeuner, le téléphone ne répond pas. C'est un téléphone fixe à l'époque, bien sûr. Sa maman s'inquiète tout de suite parce que c'est vraiment une petite fille qui est très sérieuse, qui n'a pas l'habitude de traîner dans les rues. Donc elle ameute un petit peu tout ce qu'elle peut. On commence à la chercher un peu partout dans la résidence. Le gardien cherche et puis en descendant au troisième sous-sol, il découvre une main en fait qui sort d'un morceau de moquette qui a été posé là. Et on comprend très vite que dans ce morceau de moquette, il y a un corps. Donc elle est retrouvée, elle a été étranglée, violée, frappée de plusieurs coups de couteau.
La petite fille gît au troisième sous-sol dans le parking, poignardée derrière une porte fermée.
Et donc les policiers de la CRIM démarrent leur enquête à ce moment-là.
Cécile Bloch avait 11 ans, ses parents, tout comme son demi-frère et d'autres voisins, ont vu un homme suspect.
Alors effectivement, ce jour-là, dans cette résidence, il y a plusieurs personnes qui vont croiser un homme qui a un comportement malaisant, un peu gênant dans l'ascenseur, qui fait des allers-retours, qui a l'air de faire un petit peu des repérages. Et le propre demi-frère de Cécile Bloch va le croiser dans l'ascenseur. Donc c'est un moment où forcément il est proche de lui, où il se parle d'ailleurs. Lui trouve qu'il a un ton très obséquieux. Il est tout de suite mis mal à l'aise par ce type. Et il donne une description physique assez précise. Il parle à ce moment-là effectivement de cette peau qui est abîmée, probablement pour des problèmes de boutons qu'il a eu plus jeune. Et donc il décrit quelqu'un, c'est de là que va venir le surnom Le Grêlé d'ailleurs. Et quand le portrait robot est dressé à partir du témoignage de ce demi-frère et du témoignage de plein d'autres personnes qui l'ont croisé à l'époque ce jour-là dans la résidence, il est plutôt grand, plutôt jeune, entre 25 et 35 ans. Effectivement des cicatrices sur la peau, des cheveux, voilà, une mèche de cheveux un peu sur le front, enfin... Des yeux aussi, des orbites un peu creuses. Il y a des portraits robots qui parfois ne ressemblent pas à grand-chose. Autant celui-là, il y a eu beaucoup de témoignages qui ont été assez concordants, donc on arrive à une description quand même assez précise.
Nous sommes dans les années 80, les policiers n'ont pas l'arme de l'ADN, pas d'ordinateur, ils épluchent les fiches des affaires récentes à Paris. Denis Courtine, il trouve un cas comparable, celui du viol d'une fillette dans la capitale, un mois plus tôt, le 7 avril.
Oui, c'est la petite Sarah, donc les enquêteurs vont évidemment s'intéresser à ce viol. En fait, c'est une gamine qui habitait Place Vénissy, dans le 13e arrondissement, et c'est un peu le même mode opératoire que pour Cécile Bloch, c'est-à-dire qu'il monte dans un ascenseur, la petite Sarah, elle part à l'école, c'est le matin, il est un peu plus de 8h, et il la conduit jusqu'au sous-sol en fait, de l'immeuble, et là, il la viole et il la laisse pour morte dans le sous-sol.
La fillette de 8 ans était évanouie, elle reprend conscience environ un quart d'heure plus tard et elle parvient à défaire les liens qui enserraient ses poignets pour aller chercher du secours. Plus tard, les enquêteurs de la PJ lui présentent le portrait robot du Grêlé dessiné après le meurtre de Cécile Bloch et Sarah reconnaît son agresseur. Damien Delceni, un an plus tard, le 27 octobre 1987, une ado de 14 ans, Marianne, est violée à Paris par un homme se faisant passer pour un policier.
Ce violeur, il va présenter une carte à la victime. Il va d'ailleurs prétendre travailler sur le trafic de stupéfiants dans le quartier. Donc il présente cette carte tricolore. Évidemment, c'est pour à la fois neutraliser sa victime et la mettre en confiance dans un premier temps. Elle va être ligotée, bâillonnée, ligotée. Il va ensuite la violer. Donc on a une description encore assez précise d'un mode opératoire et de l'utilisation d'une carte professionnelle.
Damien Delceni, à ce stade, de quels éléments disposent les enquêteurs sur ce meurtrier et violeur en série potentiel ?
Ils disposent de peu de choses et de beaucoup de choses. Beaucoup de choses parce qu'ils ont un portrait robot, ils ont un descriptif. Ils commencent à avoir quand même une idée de la zone géographique dans laquelle ils frappent, parce qu'ils frappent quand même dans des arrondissements assez particuliers de Paris, le 13e, le 14e. Ils ont un mode opératoire qui n'est pas forcément toujours le même, mais qui se dessine quand même, des immeubles, des ascenseurs, des jeunes filles plutôt ados qui sont abordées. En revanche, on est à la préhistoire absolue de la police technique et scientifique. Tout se fait un petit peu à la main, même si c'est la brigade criminelle qui centralise les investigations. Il y a des affaires qui peuvent rester dans des commissariats de quartier dont on n'entend pas parler. Enfin, tout ça est très artisanal à l'époque.
L'enquête ne progresse pas et en 1988, le père de la petite Cécile Bloch demande aux enquêteurs d'utiliser une technique naissante, toute nouvelle, l'ADN.
Oui, en fait, c'est le demi-frère de Cécile Bloch qui s'est documenté sur la question et qui a découvert les travaux d'un chercheur sur l'ADN. Et à l'époque, cette famille, elle est dans le chagrin, elle est dans la terreur. En même temps, il n'y a pas de réponse. L'enquête, elle n'avance pas, elle ne tire pas de pistes sérieuses. L'ADN, c'est vraiment, voilà, c'est la fin des années 80, c'est de tout début de cette technique qui est d'ailleurs complètement en phase de test à ce moment-là. Mais on sent qu'il y a une volonté, en tout cas des parents évidemment et des proches, d'essayer d'obtenir quelque chose de ces progrès scientifiques. Mais voilà, les scènes de crime à l'époque, elles ne sont pas traitées tout à fait de la même manière. Ce qu'on sait à l'époque simplement du travail qui a été fait sur l'affaire Bloch, c'est qu'on a un groupe sanguin à partir du sperme. On sait que c'est le groupe A. Alors c'est une information, mais le groupe A, c'est très répandu. Donc c'est pas une information en fait véritablement décisive dans le dossier.
Les mois et les années passent, rien de concret, rien de tangible. En 1993, l'enquête sur le meurtre de Cécile Bloch est classée sans suite, motif, auteur non identifié. L'année suivante, Denis Courtine, en 1994, le 29 juin, à Mitry-Mory en Seine-et-Marne, une enfant de 11 ans, Ingrid, est enlevée.
Ouais, elle est enlevée par le conducteur d'une voiture blanche qui l'enlève dans la rue, à Mitry-Mory, et qui la conduit très loin de là, dans la banlieue sud, jusqu'à Saclay, dans une ferme. Donc il lui montre des BD sadomaso et il la viole sur place.
Dans l'après-midi, l'homme part de la ferme. À un moment, il dit qu'il va chercher à manger et qu'il va revenir. La fillette attend 5 minutes et s'enfuit. Aux gendarmes, elle raconte comment il l'avait fait monter dans sa voiture. Il s'est fait passer pour un policier. Il lui a demandé ses papiers, elle n'en avait pas. Il lui a dit « Je vais t'emmener au commissariat ». Ingrid donne aux enquêteurs une description précise de son agresseur et de sa voiture, une Volvo Claire. Quelques mois plus tard, le mardi 25 octobre, les enquêteurs interpellent un suspect à Conches-sur-Gondoire, toujours en Seine-et-Marne, un certain Claude P. et Denis Courtine. Il passe aux aveux.
Alors Claude P, oui, c'est un homme de 36 ans. Il avait déjà été surpris en train de... Il avait essayé d'embarquer à bord de son véhicule, justement une voiture blanche, deux jeunes filles, près de Mitry-Mory. Et donc forcément, les policiers font le lien, ils le placent en garde à vue. Et lors de sa garde à vue, il passe aux aveux et dit « bah oui, effectivement, j'ai bien violé quelqu'un ».
La petite Ingrid doit formellement identifier et reconnaître son agresseur. Pour l'aménager, les enquêteurs ne lui soumettent pas une photo de Claude P, mais 7 portraits robots. Ingrid s'arrête sur le dessin numéro 6.
Ouais, sur le dessin numéro 6, donc c'est pas celui du suspect qui vient d'être placé en garde à vue, mais c'est celui de l'homme qui a violé la petite Marianne en 87.
La juge en charge du dossier décide de comparer l'empreinte génétique du suspect, Claude P., avec celle extraite du sperme du violeur d'Ingrid qu'on a retrouvé sur la petite fille. La comparaison est négative. L'homme est donc innocenté et relâché malgré ses aveux. Damien Delceni, on le voit, la science de l'ADN progresse. Et au printemps 1996, l'enquête sur la mort de la première victime, Cécile Bloch, 11 ans, est rouverte. La juge d'instruction en charge du dossier demande au CHU de Nantes une expertise des traces de sperme présente sur la moquette et les vêtements de la victime.
On est 10 ans après la mort de Cécile Bloch, l'ADN a progressé, on peut maintenant extraire plus de choses, on peut révéler plus de choses. Donc effectivement, on relance l'enquête Bloch en se disant que peut-être avec les nouvelles armes scientifiques dont on dispose, on va enfin pouvoir aussi avoir cette carte d'identité génétique du violeur et du tueur de Cécile Bloch.
Et c'est ce qui est trouvé.
Et c'est ce qui est trouvé, on arrive enfin, 10 ans après, à avoir cette fameuse trace et à ne plus avoir juste un groupe sanguin ou quelques éléments un peu disparates. Là, on a la carte d'identité génétique du tueur.
Et grâce à cette carte d'identité génétique, le 24 octobre 1996, le lien est fait entre plusieurs affaires du Grêlé.
On sait maintenant avec certitude scientifique que le Grêlé est la même personne qui a violé Marianne, Sarah et qui a violé et tué Cécile Bloch.
Quelques années plus tard, au tout début de l'année 2001, une juge d'instruction qui a repris le dossier Cécile Bloch veut tenter quelque chose. Elle demande à tous les laboratoires de France de comparer systématiquement l'ADN du grêlé dont on dispose avec ceux présents dans leur fichier. Damien Delceni, le résultat est surprenant.
Oui, parce qu'il va nous ramener sur une vieille affaire qui date de 1987, qui est le double crime, le double meurtre du Marais, du quartier du Marais à Paris. En fait, ce jour-là, en 87, les policiers découvrent une scène de crime tout à fait particulière, assez atroce. Ils découvrent deux corps, celui de Irmegard Müller, qui a 20 ans, qui est une jeune fille au père allemande, qui travaille pour une famille qui habite dans cet appartement à Paris. Le chef de famille, c'est Gilles Politi, il est mécanicien Air France, il a 38 ans. Et les policiers découvrent ces deux corps, celui de cette jeune fille au père et celui de son employeur, Gilles Politi. Ils découvrent des corps qui sont mutilés. Elle est accrochée un peu comme crucifiée au barreau du lit. Il y a des brûlures de cigarettes. Il y a vraiment des sévices importants qui ont été commis sur elle. Et lui, il est dans une position, il a été attaché avec des liens dans une position dite de la gondole. C'est-à-dire que le meurtrier lui a attaché les chevilles avec des liens qu'il a d'ailleurs trouvé sur place. Il y a des cravates qui sont utilisées. Et ses chevilles, elles sont rattachées à ses bras qui sont tendus à l'arrière de son corps. Et voilà, c'est une position très particulière. Il est à plat ventre sur le lit dans une position de gondole. Donc il y a vraiment une seulement meurtre, mais en plus des actes de barbarie et une scène de crime qui est presque rituelle en fait.
Et donc grâce à l'ADN, on est sûr que c'est le grêlé qui a commis ce double meurtre.
C'est-à-dire que sur cette scène de crime, il y a une trace ADN qui est prélevée, qui est la même que celle qui est prélevée sur la scène de crime de Cécile Bloch. Donc la conclusion elle est simple, la personne qui a tué Cécile Bloch, le grêlé, c'est aussi la personne qui a tué Irmgard Müller et Gilles Politi.
L'une des deux victimes de cette scène de crime, la jeune fille au père, multipliait les rencontres amoureuses à cette période de sa vie et elle consignait les détails de ses expériences dans un petit calepin. 29 amants ont été retrouvés et mis hors de cause, mais pas le 30e.
Effectivement, les policiers découvrent ce calepin un peu étonnant. C'est un carnet de notes en fait de tous les amants qu'elle croise et elle fait à chaque fois des commentaires sur leurs prestations sexuelles quelque part. Ils retrouvent tout le monde sauf un nom qui ne correspond à rien, un type qui se prénomme Ellie, dont elle décrit d'ailleurs des performances sexuelles très en dessous de la moyenne, dit qu'en gros c'est pas un bon coup, que c'était nul. Ellie Loringe. Mais ce Ellie Loringe, il n'existe pas. Donc les policiers comprennent assez vite qu'il a dû se présenter à cette jeune fille sous un faux nom, une identité complètement farfelue. Ils pensent que derrière ce Ellie, c'est potentiellement et même sûrement le grêlé.
D'un mot, Damien Delceni, ce double meurtre attribué au grêlé, ça change son profil?
Pour l'instant, on travaillait sur un violeur plutôt d'adolescente, un violeur et un tueur, mais surtout un violeur d'adolescente. Et là, on découvre que ce tueur, il est capable de tuer des adolescents, de tuer des adultes, de tuer des hommes, de tuer des femmes. Encore une fois, avec des scènes de crime qui sont extrêmement barbares, avec une violence inouïe et une mise en scène criminelle qui est inquiétante. Ouais.
Damien Delceni, malgré cette nouvelle information, l'enquête reste dans l'impasse. En 2011, 25 ans après le viol et le meurtre de Cécile Bloch, le grêlé est toujours un mystère. Et pour les hommes et les femmes de la police judiciaire, c'est un échec qui les hante.
C'est toujours un échec quand on doit refermer une enquête. Celle-là, elle l'est encore plus parce qu'elle touche la brigade criminelle du 36 quai des Orfèvres, qui est la brigade criminelle la plus prestigieuse de France, et qui n'y arrive pas. Ils sont souvent passés pas loin, en tout cas ils ont eu le sentiment de passer pas loin. Il y a beaucoup d'enquêteurs qui ont été hantés, habités par cette enquête, y compris dans leur vie privée, enfin, qui rentraient avec ça chez eux le soir. Et il y a même une fois où ils ont ouvert une bouteille de champagne parce qu'ils étaient persuadés d'être sur le bon suspect. Et à chaque fois, eh bien non, il y avait des fausses pistes, des pistes qui se refermaient. Toutes les hypothèses sont possibles. Il peut être en liberté. À un moment donné, on a eu l'impression que tout s'était arrêté. Les enquêteurs se sont dit soit il est en prison pour d'autres choses et on n'arrive pas à faire le lien, soit il est mort. Donc s'il est mort, par principe, on ne le retrouvera jamais.
En 2014, il y a du nouveau dans l'enquête sur le grêlé. Un logiciel de la police fait le lien avec le meurtre d'une lycéenne de 19 ans en juillet 1994, dont le corps a été retrouvé le 12 juillet cette année-là dans un bois de Monceau-les-Maux en Seine-et-Marne.
C'est la jeune Karine Leroy. Elle part de chez elle. Elle habite au quartier Beauval à Meaux. Elle part de chez elle pour aller à l'école et sur le chemin, elle disparaît. Et effectivement, un mois après, on la retrouve morte en bordure d'un bois. Karine Leroy, ça reste un mystère complet. Il y a eu des recherches qui ont été faites sur Michel Fourniret à une époque parce que ça correspondait à la période où Michel Fourniret frappait beaucoup et dans une zone géographique où il pouvait être amené à frapper. Et effectivement, il y a un mode opératoire, il y a quelque chose qui ressemble à ce que peut être le grêlé.
On fait un saut dans le temps. Denis Courtine, en mars 2021, une juge d'instruction, Nathalie Turquet, relance l'enquête sur le grêlé. Quel est le point de départ ?
Le point de départ, c'est que les enquêteurs ont la conviction qu'il s'agit d'un membre des forces de l'ordre, plus particulièrement d'un gendarme. C'est dans sa façon dont il présente une carte tricolore, le holster qu'il porte à certaines occasions, les menottes dont il se sert, la façon dont il parle à certaines de ses proies. Il se présente comme gendarme, il se présente comme policier. Donc voilà, ils sont persuadés qu'il s'agit d'un ancien membre des forces de l'ordre et plus particulièrement d'un gendarme.
Alors que fait la juge ?
Elle va tout simplement réussir à recenser près de 750 gendarmes qui ont travaillé en région parisienne lors de la période concernée et qui sont depuis partis en province.
Des centaines de gendarmes sont convoqués et le vendredi 24 septembre, le retraité François Vérove, l'ancien conseiller municipal de la commune de Prades-le-Lez, reçoit un appel.
C'est une policière de l'APJ de Montpellier qui lui passe un coup de téléphone pour lui dire de se présenter pour faire un prélèvement ADN. Elle ne précise pas que c'est l'affaire du grêlé, mais elle dit que c'est une affaire ancienne.
Que fait François Vérove après cet appel ?
Alors après cet appel, il n'en parle à personne, il vide tous ses comptes en banque, il loue un logement dans la station balnéaire du Gros du Roi, il s'installe dans cet appartement et c'est dans cet appartement qu'il se donne la mort par un mélange de médicaments et d'alcool.
Et il laisse un mot derrière lui ?
Oui, il laisse un mot derrière lui, c'est un mot qui est destiné donc à son épouse, dans lequel il reconnaît qu'il a commis des choses horribles durant une période, qu'il a tué, il explique qu'il a tué des personnes innocentes, qu'il a changé depuis, qu'il n'a plus rien fait depuis 97, qu'il a des pensées pour les familles des victimes et évidemment pour sa femme.
Un ancien gendarme dans le Gard, âgé de 59 ans, qui s'est suicidé. Il aurait laissé un courrier, il est soupçonné d'être le tueur en série surnommé le Grêlé.
Après son suicide et la découverte du mot qu'il a laissé, son ADN est bien sûr analysé pour être comparé à celui du Grêlé. On en revient donc au début du premier épisode de Code Source sur cette affaire, Damien Delceni. Le jeudi 30 septembre, le soir, avec les journalistes du service police-justice du Parisien, vous attendez le résultat.
Oui, on l'attend parce que même si les pourcentages, que ce soit lui, sont assez élevés, il ne faut pas oublier que dans la lettre qu'il laisse à sa femme, il est assez imprécis. Il ne dit pas « je suis le grêlé », il parle d'un certain nombre de crimes qu'il a commis sur une certaine période. Effectivement, on attend tous avec impatience. Et vous savez, même les policiers qui sont évidemment assez excités par ce dénouement assez incroyable, ils sont assez pétrifiés à l'idée d'être sûr vraiment que c'est lui et d'avoir cette comparaison de haine qui effectivement va tomber... En toute fin de soirée, un peu avant minuit.
Une information qui nous est confirmée à l'instant par le service police-justice de BFM TV, information qui est capitale. Je vous lis le mail tout simplement qui m'arrive à l'instant. Le grêlé a bien été identifié. Le gendarme qui était suspecté depuis plusieurs semaines, son ADN a été comparé visiblement à l'ADN qui a été retrouvé sur...
L'empreinte génétique de François Vérove est l'empreinte génétique du grêlé.
Denis Courtine, c'est après cette confirmation que vous partez en reportage dans l'Hérault, faire une enquête de voisinage, comme on dit. Et justement, ces anciens voisins ont du mal à croire ce que vous leur dites.
Oui, ils ont évidemment beaucoup de mal à y croire. Ils me disent que François, c'est un type bien. François, c'est un gars qui m'a déjà rendu service. Un qui me dit, moi, il m'a changé le pneu de ma voiture. Et un autre qui me dit, regardez les gants que je porte, là, moi, j'ai un scooter. Et c'est François qui me les a offerts du temps où il était motard à la gendarmerie. Il travaillait pour la municipalité. Il s'est occupé à une époque des réseaux sociaux. Lui, il donnait son avis. Il était impliqué véritablement dans la vie du village. Et il était évidemment au-delà de tout soupçon.
Il y a un voisin quand même qui vous dit, ce n'était pas un mec bien.
Oui, il me dit, c'était pas un mec bien, c'était un mec très bien. Voilà. Il siégeait notamment au centre communal d'action sociale où on s'occupait d'accorder des aides financières aux personnes qui rencontraient des problèmes. Et lui, il me disait, François, lui, il disait tout le temps oui, il fallait absolument aider les gens. Il se contentait pas de dire il fallait les aider, il argumentait, il était toujours au service des autres.
Après ce reportage, vous êtes aussi parti dans le Nord, à Marc-en-Barœul, où il a passé une partie de sa jeunesse. Est-ce que quelque chose dans son enfance peut expliquer ce double visage ?
Non, pas du tout. Pour l'instant, pas du tout. Il vivait là au tout départ avec son père, qui travaillait au PTT, dans un quartier qui était fréquenté par la classe moyenne. Sa mère était morte quelques années plus tôt d'un cancer. Et peu de temps après son installation donc à Marc-en-Barœul, le père de François Vérove se remarie. François Vérove, du coup, a une belle-mère qui vient avec ses deux enfants. Et il mène là-bas une petite vie de quartier complètement paisible. Il avait une vie parfaitement normale.
Damien Delceni, l'un des journalistes du service police-justice du Parisien, fait réagir l'avocat historique de la famille de Cécile Bloch. Que dit-il ?
D'abord, il apprend la nouvelle. Quand on lui passe ce coup de téléphone, il n'était pas au courant. Alors, il n'était plus l'avocat de la famille depuis quelques années. Il n'est pas très loin de la retraite, cet avocat. Il est très ému quand il apprend ça. Il est ému, évidemment, parce que c'est le dénouement d'une affaire vieille de 35 ans. Il est ému parce qu'en fait, il était à la fois l'avocat et il était surtout un ami de fac du papa de Cécile Bloch. C'est d'ailleurs comme ça qu'il était devenu l'avocat de la famille au départ. Et lui, il a vu cette famille sombrer et être frappé de manière assez curieuse par le malheur. C'est-à-dire qu'après l'assassinat, le viol de Cécile Bloch, les parents vont évidemment... ils sont brisés, donc ils vont quitter Paris, ils vont s'installer en province. Et quelques mois plus tard, la maman de Cécile est percutée sur une route de campagne par une voiture, elle meurt. Et le père de Cécile, il se retrouve veuf avec une petite fille qui a été violée et tuée, une enquête qui n'avance pas. Et ça va le rendre fou, c'est-à-dire qu'il va s'enfermer dans cette espèce de grange ferme là, qu'il a achetée dans cette région du sud de la France, pas très très loin d'Agen, et il va se mettre à boire, il va fumer, il va essayer d'enquêter à son propre niveau, mais c'est très compliqué, et il va finir par mourir d'un cancer quelques années plus tard. Et donc l'avocat, il garde ce souvenir d'une famille brisée, et puis qui n'aura jamais su, en fait, ni son père ni sa mère n'auront su de leur vivant qui avait tué leur fille.
Denis Courtine, dans sa lettre d'adieu, François Vérove affirme qu'il s'est fait soigner et qu'il a arrêté de commettre des crimes à partir de 1997, vous l'avez dit, mais le dernier crime connu du Grélé date de 94.
Oui, le dernier crime connu, c'est effectivement Ingrid en 94, Karine Leroy la même année à Meaux. Et depuis, on n'a aucune affaire liée au Grélé. Donc on se pose forcément la question, on se demande, mais alors 97, ça fait quand même 3 ans, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 années? Est-ce qu'il y a eu d'autres crimes qui ont été menés pendant cette période?
Damien El Seni, l'enquête continue?
Bah bien sûr, l'enquête elle va continuer sans le principal auteur et acteur, mais il faut qu'elle continue parce qu'il faut qu'on comprenne d'abord si ce qu'il a écrit est vrai. Ça laisse déjà une période de 3 ans, effectivement, où il peut avoir commis d'autres crimes, et pas seulement en région parisienne, peut-être ailleurs en France. Et après, il faudra se poser la question, et les enquêteurs se la posent déjà, à quel moment on cesse une série comme celle-là? Une série qui est extrêmement dense hein, en termes de gravité des faits et de fréquence des faits. Qu'est-ce qui fait qu'on s'arrête? Alors, il y a des psys qui vont dire qu'on peut s'arrêter, qu'on peut, à un moment donné, arrêter une carrière de criminel en série, comme ça, de manière assez nette. On a envie de comprendre comment cette mécanique criminelle a fonctionné et les enquêteurs ne vont pas faire l'économie d'aller exhumer tous les dossiers qu'ils peuvent exhumer maintenant. Oui.
Cette affaire, elle montre que Monsieur Tout-le-Monde peut être un tueur et un violeur en série.
C'est extraordinairement gênant comme affaire parce qu'en fait, on se dit, ce type, quand il regardait ses petits-enfants, voilà, c'est quand même le type qui a tué une gamine de 11 ans dans un sous-sol, qui l'a violée, qui en a violé d'autres, qui en a tué d'autres de manière extrêmement barbare. Et c'est vrai que c'est très dérangeant de se dire que ce type était un bon voisin, un bon conseiller municipal, un bon papy. Il y a beaucoup dans l'histoire des tueurs en série, de tueurs en série qui étaient des monsieur tout le monde et des gens parfois très sympathiques, même plus sympathiques que la moyenne. Et c'est toujours très déstabilisant de constater ça, ouais.
Merci à Damien El Seni et Denis Courtine. Le Parisien, c'est 400 journalistes mobilisés pour vous informer avec des bureaux dans tous les départements d'Île-de-France et l'Oise à retrouver sur leparisien.fr. Et Code Source, le podcast quotidien du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes audio. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert et Raphaël Pueyo. Réalisation, Julien Moncouquiol. Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner, de nous laisser des petites étoiles ou un commentaire sur votre application préférée. Vous pouvez aussi nous écrire directement codesource@leparisien.fr.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hi, I'm Megan Rinks.
And I'm Melissa D. Montz.
And like every other person with access to a microphone, we started a podcast.
On Mondays, we release Don't Blame Me, which is an advice podcast where listeners call in and we share our thoughts on situations such as what to do if you're going to your boyfriend's family function and you haven't told him that you previously slept with both his twin brothers.
Then on Thursdays, we release our podcast, But Am I Wrong?, where we ethically gossip about pop culture, politics, our lives, and your lives. Listeners write in and we tell them if they're wrong or right in a situation. Are you the hero or the villain?
On Tuesdays and Fridays, we throw in a little something extra as well.
Well, something, something. We strive to create a community grounded in activism, mental health, and inclusivity. Think of us as like your blunt, honest friends who give you advice that you need to hear, not what you want to hear. But we're also always rooting for your success. What we lack in credentials, we make up for in
opinions.
We do that in every episode too.
We're professional unprofessionals, so if you're looking for a new slate of podcasts to add to your routine, we're here for you.
Acast recommends.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.